Le fantôme de Taverny, une enquête de l'inspecteur Barr, par Michel Corry. Chapitre 1er, une histoire fantastique.
Je ne suis pas folle.
Paul Barr, d'un geste aisé d'homme du monde, faisait signe à son interlocutrice de s'asseoir. Il approchait d'elle un fauteuil.
Dans un salon, il n'eût point agi avec plus de courtoisie.
Paul Barr, d'ailleurs, était précisément, en dépit de la modestie apparente de sa fonction, un homme du monde et un personnage de salon. Riche, libre, cultivé, il avait, au moment de choisir une carrière, embrassé celle pour laquelle il se sentait une incoercible vocation. Inspecteur de police.
Non point que la police l'attirât,
mais le mystère. Débrouiller les énigmes que révélaient si souvent les faits du jour. Il éprouvait à l'endroit de cette profession une passion. Et lui, le mondain, le jeune homme distingué, appelé au plus brillant avenir, il était entré à la préfecture de police. Il jouissait, à cause de cette situation privilégiée et exceptionnelle qu'était la sienne, d'une considération particulière. Mais plus encore qu'à cause de sa position indépendante, il devait cette liberté, ce prestige à son extraordinaire habileté. C'est lui qui avait retrouvé le voleur du diamant de 100 millions, l'assassin invisible d'un crime inexplicable, et qui avait découvert cette femme perdue dont le secret avait passionné tout Paris. Aujourd'hui, un autre mystère lui était soumis. La guerre venait de s'achever. Paul Barr y avait fait glorieusement son devoir comme lieutenant d'infanterie. Puis, prisonnier évadé, il était entré dans la résistance. La paix enfin retrouvée, il était revenu tranquillement reprendre son poste, aussitôt démobilisé, après quelque temps passé au deuxième bureau. Le chef de ce service, le colonel Sauval, qui avait pu apprécier le rare mérite de ce jeune mais éminent subordonné, avait demandé au ministre de l'Intérieur que l'affaire Hermann Kurth, ou plutôt la suite de cette affaire, lui fût confiée, et il avait dit à son ancien lieutenant « Mon cher ami, vous allez avoir là une occasion que je crois unique d'exercer votre talent de détective. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez recevoir la visite de mademoiselle Lucienne Sudry. » Lucienne Sudry, n'est-ce pas cette jeune fille qui fut l'amie de ce Hermann Kurth? Et qu'elle ne connaissait que sous la fausse identité qu'il avait prise de Jean Brégé. C'est bien cela. Mais Hermann Kurth n'est plus. Il a été fusillé. J'ai même assisté à son exécution. Et aujourd'hui, Lucienne Sudry était devant lui. Dans ses beaux yeux, Paul Barr ne lisait qu'intelligence et raison. Mais quelle impossible histoire elle lui racontait là. Orpheline à 20 ans, sans famille proche, seule dans l'existence, son père mort de chagrin après sa ruine, sans autre ressource que les débris d'une fortune dissipée, elle s'était mise courageusement au travail. Il ne lui restait guère de sa famille qu'une gentille propriété, la Villa Fleury, dans l'agréable pays de Taverny. C'est là qu'elle avait voulu demeurer. Jeune employée banlieusarde, elle prenait chaque jour le train pour aller à son travail dans un laboratoire parisien, où s'exerçaient ses connaissances de licencié en sciences. Là, elle avait fait la connaissance d'un jeune chimiste Jean Brégé, un beau garçon blond, qui se disait alsacien et qui lui témoignait une grande affection. Lucienne était sage, mais cette sollicitude la touchait. Et puis, elle n'avait guère plus de 20 ans. Enfin, elle aimait. Bref, elle lui céda. Il était entendu que Jean devait faire venir ses papiers garés dans la tourmente de la guerre, disait-il, dans la mairie détruite de son village d'Alsace. Et les deux amants devaient aussitôt se marier. Ils étaient heureux. Et puis, fit-elle, sous un secoue de sanglots, ça a été l'affreuse chose, l'atroce révélation. Jean Brégé s'appelait Hermann Kurth. Il n'était pas alsacien, mais allemand. C'était un espion. Un espion. Moi, fille d'un père qui avait fait glorieusement l'autre guerre. Moi, patriote française. Je ne pouvais pas croire. Il était doux, prévenant, gentil, et il m'aimait. Cela, j'en suis sûr, il m'adorait. Et moi, pauvre malheureuse, ah, c'est épouvantable. Parlez, je vous écoute.
Vous croyez savoir que les fantômes n'existent pas?
Je ne crois pas aux fantômes, mais je suis tout disposé à croire ce que vous allez me dire.
Moi non plus,
je ne croyais pas aux fantômes. Ah, certes non, mais depuis ce que j'ai vu. Dites-moi donc ce que vous avez vu.
3 jours après l'exécution.
Et ici, ces larmes redoublèrent.
3 jours après l'exécution,
reprit froidement Paul Barr.
Oui, c'était le surlendemain, il y a 3 semaines. La nuit était tombée, j'étais à ma fenêtre, derrière la vitre, et alors, là, dans les massifs du jardin, j'ai vu, quoi?
Lui?
Non, ne me dites pas que je me trompe. D'abord, je l'ai revu depuis, souvent, presque tous les soirs.
Mais ce premier jour, je lui ai vu que c'était lui, son allure, son attitude, et même ce que je pouvais voir de son visage. Elle frémissait. Il lui fallut faire un effort pour reprendre.
Sa face était comme éclairée, lumineuse, ainsi qu'on représente les fantômes.
Une mauvaise farce. Quelqu'un de mal renseigné sur l'innocence de vos relations.
Vous ne saviez pas,
vous ne pouviez pas savoir. Mais certains ont pu croire.
Non, on me connaît à Taverny. On a été très gentil pour moi. On me plaint, on sait mon innocence. Ce n'est pas une farce. Et c'est bien Jean, je veux dire, Hermann Kurt. En effet, l'homme, le revenant, le fantôme, enfin, appelez cela comme vous voudrez, était à l'intérieur de la villa, et la porte en était fermée à clé. Un homme ne peut pas passer à travers une grille.
Attendez.
Presque chaque soir, je voyais ainsi, à la même heure, la même apparition, au même endroit, dans le même buisson. Et puis, un jour, je l'ai vu entrer. J'étais encore à la fenêtre. Mon Dieu, je sais bien que je n'aurais pas dû, mais je ne sais quelle force me poussait. Je voulais savoir, mais je me cachais, et je ne voulais pas qu'il me vît. Bref, j'ai vu la grille s'ouvrir, et il est entré comme une personne naturelle.
Alors, c'est une énigme. J'en ai connu d'autres. J'en ai déchiffré quelques-unes. C'est mon métier.
Continuez, vous m'intéressez.
Vous êtes le premier.
Les autres cessent l'entretien avec des paroles de complaisance ou de pitié.
Oui, je continue.
Deux jours après, il était revenu dans son buisson. Je l'ai entendu qui, d'une voix étouffée, murmurait vers moi.
Lucienne, Lucienne.
Et bien qu'elle ne fût qu'un souffle, j'ai fort bien reconnu cette voix, sa voix.
Lucienne s'était tue.
Je vous ai dit, fit Paul Barre, que mon métier était de chercher, et si possible de trouver, la clé de l'énigme. Mais je n'ai jamais encore travaillé contre des fantômes. Que voulez-vous de moi?
Je ne sais trop, mais il m'a semblé que c'était mon devoir. J'ai hésité. J'ai aimé cet homme. Il m'a aimé. Il m'aime par-delà, par-delà,
par-delà la mort.
Acheva gravement l'inspecteur.
C'est bien, mademoiselle.
J'irai un soir à Taverny. Je verrai l'apparition.
Et alors?
Alors, ma foi, je vous le dis franchement, je ne sais pas.
À bientôt, en tout cas.
J'arriverai inopinément.
Au revoir, mademoiselle.
Lucienne rentra à Taverny par le train du soir. Elle arriva à la villa comme la nuit tombait. Elle rentra, referma avec soin la grille à deux tours de clé. Elle prit la même précaution pour la porte d'entrée du corridor et pour celle de sa chambre où elle s'enferma. Elle tomba sur un fauteuil devant la fenêtre. Alors, une fois encore, elle vit la lueur s'allumer dans le buisson. La silhouette incertaine au reflet bleuâtre se dressa. Mais cette fois elle s'avança, flottante, dans l'allée. Elle gravit le perron et parut s'enfoncer dans la porte.
« Ciel, il entre !»
murmura Lucienne, immobile d'angoisse.
Elle resta ainsi une seconde, puis la porte de la chambre, la porte fermée, elle aussi à clé, comme celle du corridor et de la grille, s'ouvrit. Et le fantôme entra.
Elle voyait dans un halo une forme blanchâtre, vaguement bleuissante, comme inconsistante, les yeux cernés de lumière surnaturelle, la face d'Hermann, de Jean, creusée de lueur et d'ombre, et une voix de l'au-delà, mais tout de même sa voix, qui exhalait dans un souffle.
« Lucienne, mamie, je t'aime toujours, je t'aimerai toujours. »
Et puis la vision disparut, s'évanouit.
D'abord, Lucienne demeura un long moment prostrée, inanimée peut-être. Elle ne sut jamais comment, elle eut la force de se lever, de sortir, de courir dans l'avenue déserte.
Elle se trouva devant le bureau de poste qui allait fermer. Elle entra, demanda, comme dans un rêve, le numéro du bureau de Paul Barre, et dès qu'elle eut la communication, elle s'écria dans l'appareil.
« Je viens de le voir une fois encore. Il est entré dans la maison, dans ma chambre. Il m'a parlé. C'est lui. C'est bien lui. Au secours, venez, venez vite, au secours !»
Chapitre deuxième, une exécution capitale. Paul Barre, à l'écoute de cette communication affolée, répondit de sa voix paisible
« Je vous promets de revenir bientôt. »
Tout de même, quand il raccrocha l'écouteur, il était perplexe.
« Drôle d'affaire, »
monologuait-il, selon sa coutume quand il se trouvait devant un cas singulier.
« Un fantôme, je veux voir cela. »
Il ferma la porte de son bureau et prévint l'agent de planton.
Je n'y suis pour personne, vous entendez bien, pour personne. Quand le préfet lui-même ou le ministre viendrait m'embêter. » Il employa même à leur égard une expression plus énergique qui scandalisa fort le brave agent. « C'est entendu, monsieur Paul Bar. » Et celui-ci s'enfonça dans son fauteuil, les yeux clos. C'était sa manière. Il éteignait la lumière et entrait en méditation comme le médium entre en transe. Il se prit alors à revoir et à revivre tous les détails de l'exécution d'Hermann Kurt. Car enfin, si ce n'était un revenant, c'était le mort lui-même. Mais les morts reviennent-ils? C'était tourné autour du problème. Alors, Hermann était-il bien mort? On n'en pouvait pas douter. L'affaire avait fait beaucoup de bruit. Hermann Kurt était cet espion allemand qui, après la libération, était resté en France où il continuait ses monstrueux exploits. Chimiste, il avait, disait-on, découvert un procédé de conservation de bacilles virulents des pires maladies, les plus meurtrières, les plus épidémiques. Et il les avait fait répandre dans les casernes françaises et dans les cantonnements alliés. C'était en somme une réponse terrible à la terrible bombe atomique. Surpris, découvert par le deuxième bureau, convaincu de ce crime, que d'ailleurs il ne niait pas et qu'il revendiquait même comme un procédé de défense, il avait refusé de livrer ses complices, notamment nommé Otto Achillmann, dont le nom avait été retrouvé dans la correspondance saisie, mais qu'on n'avait pas pu découvrir. Hermann Kurt, lui, avait été condamné à mort et exécuté à Vincennes, dans la fameuse caponnière où étaient tombés, hélas, tant des nôtres exécutés, assassinés par les Allemands. Paul Bar avait assisté à cette exécution. Curieux des choses de la vie et aussi de la mort, intéressé surtout par l'observation des êtres exceptionnels, Hermann Kurt lui paraissait être de cela. Il avait suivi, sans perdre l'espion des yeux et de tout près, la fusillade de celui-ci. Paul Bar le renvoyait devant le peloton d'exécution tandis qu'on le liait à son poteau. À l'ordinaire, les coupables à ce moment suprême, même les plus braves, sont pâles et souvent fébriles. Lui était très calme. Son visage ne décelait aucun émoi. Il avait refusé qu'on lui mandât les yeux. Et Paul Bar le revoyait toujours, regardant tranquillement les 12 fusils braqués sur lui. 12 détonations au commandement de l'adjudant Marois, un vieux dur à cuire, réputé pour son amour de la consigne et qui ne bronchait pas une seconde en abaissant son sabre pour donner le signal fatal qui devait provoquer la suppression d'un homme. Les 12 coups avaient crépité avec un ensemble d'une totale synchronisation. Hermann s'était abattu d'un seul coup, comme foudroyé. C'est alors que l'adjudant Marois s'était approché pour le coup de grâce. Encore qu'il apparût bien superflu, il fallait respecter l'usage et la loi. Marois s'était penché sur le corps, l'avait appuyé avec application le canon de l'arme derrière l'oreille droite du fusillé, réglementairement, avec ce soin qu'il apportait toujours à l'exécution des consignes. Et certes, ce n'est pas celle-ci qui l'aurait manqué. Le coup était parti. Paul Bar, de tout près, vit l'adjudant retirer vivement son arme et la replacer dans son étui, très satisfait d'avoir contribué à la suppression d'un ennemi aussi dangereux. Et Paul Bar voyait aussi, derrière l'oreille de l'exécuté, le sang couler du petit trou rond de la blessure. Ensuite, ça avait été la parade, le défilé du régiment devant le corps de Hermann Kurt. Puis, une mise en bière sommaire, le cercueil placé dans le fourgon funèbre, la famille ayant réclamé la dépouille mortelle. Enfin, Hermann Kurt, ce suppôt de la barbarie nazie, écrivait les journaux et répétait les gens, cet ennemi implacable et terrible n'était plus. Non, répétait à son tour Paul Bar à l'évocation de ce souvenir, non. Hermann Kurt, justement et indubitablement fusillé, Hermann Kurt n'était plus. Alors, ce fantôme. Chapitre 3e. Le revenant est revenu. En pleine nuit, un coup de téléphone résonna à l'appareil. Paul Bar décrocha l'écouteur. L'inspecteur ne dormait pas. À cette heure tardive, il travaillait dans son bureau. Cependant, une voix criait dans l'appareil. « Eh bien, Paul Bar, quoi, êtes-vous sourd? Ici le colonel Soval. Excusez-moi, je travaillais. Enfin, je songeais. C'est la même chose. Je vous écoute. Je suis avisé qu'on trouve dans les casernes et cantonnements les tubes, vous savez, les fameux tubes de cet Hermann, ceux qu'il fabriquait lui-même dans son laboratoire secret. Vous vous rappelez les détails de l'affaire? Je m'en souviens, mon colonel. Ce sont sans doute des tubes de sa fabrication antérieure, ou bien fabriqués par son complice. C'est Achilleman, et répandu par lui. Le ministre est déjà visé, et il compte sur vous.
Entendu, mon colonel, je vais voir ça.
Et Paul Barr, ayant raccroché, ouvrit le placard où il avait placé le dossier de l'affaire Hermann Kurt. Le dossier avait disparu. Paul Barr ne se laissait pas facilement troubler. Il demeura froid devant cette découverte. Il regarda sa montre. Elle marquait 3h45 du matin.
« Bien, » fit-il, « rien à faire pendant 14h. »
Un peu avant 17h, il prit son pistolet dans son tiroir et, par le métro, tranquillement, il partit pour la gare du Nord et s'embarqua là, dans un wagon de banlieue à destination de Taverny. Arrivé à pied sans se presser, il se rendit à la Villa Fleury dont il avait déterminé l'emplacement sur son plan. Lucienne était là. « Nous allons régler le compte du fantôme, » lui dit-il avec enjouement. C'était la première fois qu'il s'exprimait avec bonne humeur à propos de cette affaire. Il se plaça derrière la fenêtre, dans la chambre non éclairée, cependant que Lucienne lui contait comment l'apparition était revenue chaque soir, et une fois encore était montée jusqu'à la chambre et avait répété les mêmes paroles. « Lucienne, mamie, je t'aime toujours, je t'aimerai toujours. » Et ce jour-là, plus distinctement encore. Mais Paul Barr lui fit de la main un signe de silence. Par la baie de la fenêtre, il venait d'apercevoir dans le buisson une lueur entre les branches du taillis. La vision se précisa. Maintenant, il distinguait une silhouette, cernée comme sertie d'un halo lumineux. Même il apercevait la tête, les traits dessinés, semblait-il, en creux et en relief d'ombre et de clarté. Et il reconnaissait à son tour, à n'en pas douter, le corps et le visage de Hermann Kurt. Oui, Lucienne Sudry avait dit vrai, l'apparition était réelle. Que faire? S'il se montrait, s'il sortait, s'il bougeait, l'apparition sans doute s'enfuirait, s'évanouirait, et elle ne reviendrait plus. Mais elle s'avançait. Elle gravissait le perron, comme elle l'avait déjà fait selon le récit de Lucienne Sudry. On voyait frémir les plis de sa cape, luire ses reflets.
Attention, il monte l'escalier!
Et le fantôme entra.
Hermann Kurt.
C'était bien son image.
Plus nette encore que tout à l'heure. Nette, mais comme baignée d'une atmosphère vaporeuse, tout à fait pareille aux troublantes images des fantômes des légendes.
Paul Barr, d'un coup, alluma la forte lampe électrique qu'il tenait à la main. Un rayon lumineux jaillit, éclairant en plein le fantôme, et si fortement qu'il éteignit, en quelque sorte, le halo lumineux qui sertissait le corps et le visage mystérieux. Mais ce corps et ce visage firent alors un bond en arrière, s'enfonçant dans le couloir de l'étage vers l'escalier. Paul Barr se jeta en avant à la poursuite de l'apparition. Il saisit la poignée de la porte qui se refermait, mais il entendit, une fois encore, le grincement de la serrure où le verrou s'enfonçait dans le pêne. La porte était close.
« La clé !» cria Paul Barr à Lucienne. « Vite, donnez-moi la clé !»
Mais la jeune fille cherchait, s'affolait. Paul Barr n'attendit pas. Il ouvrit la fenêtre et, sans hésiter, il sauta dans le vide. Dans le jardin, devant lui, la vision lumineuse fuyait. Il la poursuivit, le pistolet au poing. Il vit le fantôme devant la grille, et il arriva juste, lui aussi, devant la grille, dans le moment même où le revenant l'avait passé et enfermé la porte. Le fantôme allait-il donc s'échapper? Non. Paul Barr eut la surprise de le voir, derrière la grille, de l'autre côté, s'arrêter comme pour le narguer, faisant entendre un ricanement sinistre. Alors il n'hésita pas. Il avait son arme à la main. Il était à deux pas. Il était un tireur habile. Il ne pouvait pas manquer son but. Il tira. Il tira un premier coup. La lueur jaillit avec le bruit de la détonation. Et ce fut encore le ricanement qui lui répondit, cependant que le fantôme ricaneur restait immobile devant lui. Paul Barr, surpris, de nouveau tira. Il tira comme à la cible, à bout portant. Et à chaque coup, l'apparition ricanait, ricanait, demeurant invulnérable, se moquant des balles qui ne l'abattaient point et qui pourtant, de toute évidence, devaient le toucher, le traverser, et qui, de la même évidence, le laissait insensible et intact.
Un fantôme, oui, un fantôme,
pensa Paul Barr dans un éclair, se souvenant que les fantômes sont, selon la légende, insensibles aux balles, ne leur offrant qu'un corps immatériel. Alors, ayant tiré 7 cartouches de son chargeur qui en contenait 8, il arrêta son tir et s'élança contre la grille pour la franchir. Sportif et souple, il était d'un saut parvenu au fronton et se laissa tomber de l'autre côté. À ce moment, le fantôme instantanément disparut, s'évanouissant, s'anéantissant, comme s'éteint une vision magique. Le fantôme, mystérieusement, avait fondu dans la nuit. Chapitre 4. Le crime du ressuscité. Paul Barr se lève d'un bond, ouvre le tiroir du bureau. Il atteint son pistolet, il vérifie le chargeur. Une balle, une seule lui reste. Bien sûr, puisqu'il a tiré les sept autres sur, comment dire, sur le fantôme? Enfin, sur cet être, est-ce un être? Sur cette ombre, est-ce une ombre? Une ombre est-elle lumineuse? Sur la vision, qui n'a pas été atteinte, qui défie miraculeusement les balles. Une balle, une seule. Il prend cette cartouche dans une petite boîte placée dans le tiroir secret d'une autre partie de son bureau et complète le chargement de son arme. Il sort et bat dans la courette contiguë où une cible s'inscrit sur le mur. Est-ce que parfois il ne saurait plus tirer au pistolet? Ce serait bien extraordinaire. Mais il faut savoir. Il ne faut rien négliger dans une affaire pareille. Il se place à petite distance de la cible. Il vise minutieusement. Il tire. Pan. Le coup. La lueur. La cible n'a pas été atteinte, indemne, comme le fantôme. Il va s'éloigner, la tête basse, il ne sait quel sentiment le retient. Une seconde fois il vise, et il tire, le coup, la lueur. Le coup est en plein dans la cible, juste au milieu. Une mouche impeccable. Il épuise le chargeur, sept coups, sept mouches, il a un sourire bref, barbleu. Après cela, Paul Barr a repris le téléphone. « Allô ?» Le colonel Sobal. Mon colonel, voulez-vous bien faire donner les ordres à la quinzaine Marceau pour qu'on observe les prescriptions que je dicterai? Oui, pour la faire courte. S'il y a du nouveau, je pense bien. Et comment? Je vous dirai cela. Et il raccrocha. 2 heures plus tard, Paul Barr, revêtu de l'uniforme de simple soldat, franchissait le seuil de la caserne Marceau. Il passait devant la porte de garde sans saluer, contrairement au règlement. L'adjudant Marois était devant la porte de fort méchante humeur. Il grommelait, s'adressant au sergent de garde. « Où allons-nous? Voilà maintenant que par ordre, les soldats ne doivent plus saluer en passant devant le poste. C'est la fin de tout. » « Qui a ordonné cet ordre stupide, mon adjudant? Silence, sergent! Vous n'avez pas le droit de critiquer un ordre supérieur. C'est de l'indiscipline. Je dirais même de l'insubordination. Mais, mon adjudant, vous-même, venez de dire... « Re-silence, donc !» Vous n'avez pas à juger vos chefs hiérarchiques ni à discuter leurs propos. Le premier qui salue, je le fiche dedans. Rompez. Heureusement pour ce premier qui salue, car au moment où il se présenta devant le poste, l'adjudant Marois était parti faire une ronde dans le quartier. Mais un autre soldat était là, un simple soldat, qui observa le délinquant et le suivit à travers les cours de la caserne. C'était Paul Barr, qui avait fait donner cette consigne afin de retrouver tout individu étranger à la caserne qui tenterait de s'y faufiler. En effet, l'ordre avait été donné aux militaires du quartier Marceau au dernier moment, à l'instant même du quartier libre. Ensuite, aux heures de rentrée, ceux-ci avaient observé la consigne. Mais un personnage qui ne venait vraisemblablement à la caserne que la nuit et qui ne pouvait se mêler aux soldats dans les rangs de leur section ou de leur compagnie, là où tous se connaissaient, devait ignorer cet ordre, saluer en entrant et dénoncer ainsi son entrée suspecte. C'est bien ce qui s'était produit. Cette fois encore, Paul Barr avait, dans le flot des entrants, parfaitement reconnu Hermann Kurt. Tout en se dissimulant, il suivait l'espion. Celui-ci s'engageait dans un chemin de ronde. Paul Barr, caché derrière un arbre de la cour, l'observait. Quand soudain, une main se posa sur son épaule. « Ah, je vous y prends, mon lascar !» « Qu'est-ce que vous faites en vous cachant après l'appel? Vous voulez faire le mur? Vous êtes bon, donnez-moi votre matricule. » C'était l'adjudant Marois. Paul Barr était furieux. Il envoya au diable ce fâcheux qui pourrait lui faire rater son affaire. Et quelle affaire! « Foutez-moi la paix » s'écria-t-il. L'adjudant l'avait saisi au collet. « Rébellion? Le règlement me permet de forcer votre obéissance. » Paul Barr eut une inspiration. Il se souvint d'un détail des débats du conseil de guerre, jugeant l'affaire Hermann Kurt lors de la déposition de l'adjudant Marois. Interrogé à l'effet de savoir s'il n'avait rien remarqué de suspect dans la caserne Marceau,
où l'on avait retrouvé une grande quantité de tubes infestés de bacilles semés au point de passage de la troupe lors des exercices de nuit, qui ainsi les brisaient en passant. Il répondit qu'il avait remarqué, pire encore, un soldat inconnu avait dessiné sa caricature sur la porte extérieure de la salle d'honneur avec cette inscription « L'adjudant Gradubide ». C'était son surnom. Marois était quelque peu bedonnant. Et il attachait à cet acte d'irrespect bien plus d'importance qu'à la semaille d'engin mortel. Il détaillait même l'affaire avec indignation. « Oui, mon colonel, oui, messieurs les juges, cela se passait précisément dans la nuit qui précédait l'exécution d'Hermann Kurt. J'étais dans la salle des rapports, réglant les détails de cette exécution, puisque le régiment était de service pour cette cérémonie. Même que c'est moi qui devais y commander le feu. Quand un soldat du régiment est entré dans la salle des rapports, et m'a apporté la révélation de l'acte attentatoire perpétré contre ma personne. » En l'espace d'une seconde, Paul Bar revit toute la scène. Il s'écria pour se débarrasser du fâcheux. « Mon adjudant, je recherche un homme qui vient de dessiner votre portrait en caricature sur la porte de la salle d'honneur. » « Encore ?»« Oui, encore. Avec un abdomen injurieux. »« Sacrebleu !» fit l'adjudant, qui courut incontinent sur les lieux du soi-disant attentat, laissant là l'inspecteur qui reprit son information. Ainsi vit-il Hermann déposer ses tubes sur le chemin de ronde où passaient d'habitude les camions et l'artillerie motorisée. Car la durée de nocivité des tubes était assez courte et immédiate. Il y avait intérêt pour le dessein criminel du misérable à ce que les tubes ne fussent brisés et les microbes libérés qu'au dernier moment. Derrière lui, Paul Bar ramassa avec soin les terribles et minuscules engins et continua sa filature. Il vit Hermann sortir de la caserne en faisant le mur. Il ne put s'empêcher de penser alors plaisamment à l'adjudant Marois qui eût été si heureux de pincer un coupable de cet acte d'insubordination. Mais il se contenta de suivre par le même chemin Hermann Kurt. La nuit était noire et protégeait sa poursuite. Il vit Hermann s'enfoncer dans les terrains vagues des alentours, aborder une sorte de masure discrète et y pénétrer. Il était nuit. Paul Bar était seul. Il ne fallait pas que le coupable échappât. Mais comment téléphoner à cette heure tardive? Une unique et haute demeure se dressait aux environs. Il lut sur une plaque le nom d'un médecin. Il sonna. Introduit chez le praticien, il montra sa carte, donna son nom, connu de tout Paris, de toute la France, expliqua son affaire, demanda le téléphone. Il composa le numéro de la préfecture de police, réclama d'urgence 4 inspecteurs, remercia son hôte, s'excusa et reprit son observation. Quelques minutes plus tard, les inspecteurs arrivaient. Ce fut alors une ruée dans la demeure, la porte arrachée. Hermann Kurt n'eut pas le temps de faire un geste. Comme disait Paul Bar en style policier, il était fait. Il n'était pas seul. Son complice était là, Achille Mann, qui tenta vainement de se cacher. « Laissez-moi celui-là, » dit Paul Bar, « je m'en charge. » Déjà Hermann était ligoté. « Bonsoir, fantôme, » jeta Paul Bar. Il venait de découvrir un long manteau sombre dont tout l'intérieur était semé de traces lumineuses et dans une fiole un enduit phosphorescent. Masquer son visage, retrousser la cape, c'était faire évanouir le fantôme. Et aussi un trousseau de clés portant une étiquette où le revenant, dans sa manie bien germanique, d'ordre méthodique et minutieux, avait écrit « Villa Fleury, les clés de la maison de Taverny ». Mais Paul Bar cherchait toujours. Il ne s'arrêta que quand il eut trouvé une large boîte pleine de cartouches. Il éprouva, avec son canif, les balles qui dépassaient l'étui. C'étaient des munitions de guerre apparemment de notre armée, pour fusil Lebel et tout pistolet d'ordonnance. Puis Paul Bar, s'adressant à l'un des inspecteurs qu'il connaissait et dont il savait l'habileté éprouvée, lui souffla. « Attendez dehors. Je vais laisser filer l'autre. Oui, il le faut. Suivez-le. Ne le perdez pas. Qu'il soit observé nuit et jour, sans s'en douter. Très important. Allez. » Chapitre 5e. Trois fois fusillé. Le conseil de guerre jugeait Hermann Kurt. Hermann Kurt le fantôme. Hermann Kurt le fusillé. Affaire sensationnelle. Il fallait qu'il fût légalement jugé à nouveau, en raison du nouveau crime qu'il avait commis, en déposant d'autres engins dans la caserne Marceau, quand l'inspecteur Paul Bar l'avait surpris. Mais ce qui, plus encore que le crime, intéressait le conseil et aussi l'assistance, c'était de savoir par quel sortilège le coupable, régulièrement fusillé, était cependant vivant. Le colonel président s'efforçait de tirer cette affaire de survivance au clair, bien qu'elle ne constituât pas un crime, ni même un délit, du moins en ce qui concernait Hermann Kurt. Les soldats du peloton d'exécution avaient été cités. Tous affirmèrent avoir tiré en misant juste sur le coupable, avoir vu, comme tous les assistants à la fusillade, la déflagration de l'arme et avoir éprouvé, eux, le recul de l'arme. L'adjudant Marois, cité à nouveau, fit encore une déposition réjouissante. Il conta comment un soldat l'avait informé que sa caricature, avec un abdomen injurieux, avait été dessinée sur la porte extérieure de la salle d'honneur. « Mais nous savons déjà cela, » interrompit le président. « Vous nous l'avez déjà dit à la précédente audience. »« Oui, mon colonel. » Mais c'est depuis qu'un autre soldat m'a encore déclaré la même chose. C'était une nuit. Sans désemparer, et comme je l'avais fait la veille au soir de l'exécution, j'ai couru pour constater l'infraction. Mais cette fois, ce n'était pas vrai. Et Marois se retira au milieu des rires. Et comme on s'y attendait, Hermann Kurt fut, doré chef et à l'unanimité, condamné à mort. L'exécution eut lieu le lendemain. L'adjudant Marois commandait encore le peloton. Aux officiels rassemblés au fort de Vincennes, il racontait avec animation un nouvel avatar. Figurez-vous que cette nuit, comme la nuit de l'autre exécution, un soldat, je crois bien que c'est le même, est venu me prévenir, tandis que je prenais dans la salle des rapports les dernières dispositions pour la cérémonie, que le caricaturiste antimilitariste avait de nouveau dessiné mon portrait. Et ce n'était pas vrai, dit un autre, qui se souvenait de la déposition faite la veille par Marois. Si, reprit celui-ci, cette fois c'était vrai. Malgré la gravité de l'heure, personne ne put retenir un sourire. Oui, acheva l'adjudant. J'ai couru aussitôt devant la salle d'honneur où j'ai vu l'outrageante image. Mais le coupable de cette autre infamie n'avait pas été arrêté, lui. Il l'a été, dit une voix grave, celle de l'inspecteur Paul Barr. Sur ces mots commença la préparation de l'exécution. Le peloton prenait place. Le condamné, aussi calme et indifférent que lors de sa première fusillade, était devant le poteau. Une compagnie des gardes en demi-cercle enserrait ce poteau. L'adjudant noua le bandeau, revint prendre place à droite de ses hommes et leva son sabre. Puis il abaissa en signe muet de commandement, un crépitement, cependant que dans le petit jour et les 12 canons de fusil crachaient leurs 12 flammes. Hermann Kurt s'était effondré. Alors, gravement, l'adjudant s'approcha, son pistolet à la main. Il ne fallait pas cette fois manquer le coup de grâce. Longuement, il plaça le canon de son arme derrière l'oreille droite, très exactement à l'endroit que le capitaine médecin lui avait indiqué, là où la pénétration de la balle est inexorablement mortelle. Il tira, le coup retentit, tout le monde s'approcha, chacun vit nettement, indubitablement, le trou rond d'où le sang coulait. « De ce coup-ci, dit l'adjudant Marois. Le colonel du régiment donnait l'ordre pour le défilé devant l'exécuté. Lorsqu'on vit l'inspecteur Paul Barr s'approcher du corps de cet exécuté effondré et lui mettre la main sur l'épaule. « Hermann Kurt, dit-il d'une voix forte, « au nom de la loi ?» On le regardait avec stupeur. Que signifiait ? Mais ce fut bien autre chose quand on le vit soulever par les épaules le corps de l'exécuté et le mettre debout. Surtout quand on vit les yeux clos du fusillé s'ouvrir et regarder autour de lui. Et ce corps se tenait debout. Le mort fit deux pas en avant et eut un sourire de défi. Les assistants, muets de stupeur, le regardaient, éperdus, tout pâle. Seul Paul Barr demeurait absolument tranquille. « Qu'on aille chercher, dit-il simplement, des munitions dans la casemate d'armurerie du fort. Rechargez les armes. Il n'y a qu'à recommencer, pour la troisième et dernière fois l'exécution. » Ce qui fut fait. La scène invraisemblable recommença, comme tout à l'heure, comme lors de l'autre exécution. Les 12 coups de feu, la chute du corps, et ensuite le coup de grâce, tandis qu'alors la main de l'adjudant tremblait. « C'est bien, » dit Paul Barr, « Hermann Kurt est mort. » Chapitre 6e, fin de l'affaire Hermann Kurt. « Mon colonel, » dit Paul Barr, « l'affaire Hermann Kurt est terminée. J'ai l'honneur de vous en rendre compte. M'expliquerez-vous ? Tout, mon colonel. J'ai réservé pour vous, le premier, ces explications. » Il n'y avait pas de fantôme, parbleu. Mais Hermann Kurt avait tout fait pour que Lucien Sudry crût qu'il y en avait un. Il était un Allemand terrible et féroce. mais il aimait cette jeune fille, il l'adorait. Il ne pouvait se résigner à la perdre. Pour tout le monde, cependant, il était mort. Alors il a voulu, quand même, revoir sa bien-aimée. Pour cela, il a eu l'idée diabolique de lui faire croire à sa survie surnaturelle. Il lui est apparu en fantôme, maquillé, vêtements et visage, d'une pâte phosphorescente. Oui, oui, mais le plus extraordinaire de l'affaire. Dites-le d'abord, comment ce fusillé n'a-t-il pas été tué par sa fusillade? Voici. Vous savez, mon colonel, que le règlement veut que les armes et munitions qui doivent servir pour une exécution capitale soient examinées et contrôlées par l'armurier du régiment avant cette exécution. Sans doute, alors. Eh bien, ce ne sont pas celles-ci qui ont été employées pour l'exécution. Quoi? L'adjudant Marois. L'adjudant Marois est un fort brave militaire. Mais par un subterfuge, le complice de Hermann a trouvé le moyen d'éloigner un instant Marois de la salle des rapports sous le prétexte d'une caricature injurieuse de celui-ci dessinée sur la porte de la salle d'honneur. L'adjudant s'y est rendu pour constater le fait. Pendant son absence, le complice Achillemann, celui que vous avez laissé échapper, celui que j'ai fait échapper. Oui, vous allez comprendre, mon colonel. Achillemann, donc, pendant cette absence habilement provoquée, a changé les munitions. Qu'en savez-vous? Je vais vous le dire. Il a mis à la place des cartouches réglementaires, des cartouches à blanc, dont la poudre est de fabrication allemande. La bourre a la forme d'une balle comme nos cartouches à blanc, celles de chez nous. Comme elles, elles sont en carton, mais recouvertes d'une mince couche de Melchior qui leur donne exactement l'apparence de nos balles Lebel. Et comme les étuis employés sont précisément des étuis de nos cartouches Lebel, vous oubliez un détail, mon ami. Les tireurs du peloton ont déclaré avoir parfaitement ressenti l'action du recul, que n'ont pas nos cartouches à blanc. Oui, mais qu'ont les cartouches à blanc des mitrailleuses allemandes. La preuve, c'est que leurs mitrailleuses fonctionnaient pour les manœuvres avec ces cartouches à blanc. Oui, oui, en effet, c'est exact. Seulement, mon cher ami, vous oubliez le coup de grâce et la marque ronde et sanglante de la balle que vous avez vous-même remarquée lors de l'exécution. Et même lors des deux exécutions, sans parler de la troisième. Très simple. La balle de Melchior, projetée par la poudre, n'a pas assez de force de pénétration pour s'enfoncer dans les chairs nues, et encore bien moins pour traverser les vêtements. Mais elle fait une plaie sur la peau quand rien ne la protège. Plaie sans profondeur, mais qui saigne tout de même. Cartouche, en somme, inoffensive. Ce qui explique tout, et notamment pourquoi j'ai tiré cette balle sur le fantôme sans le blesser. Quoi? Vous aviez-vous aussi ces cartouches dans votre chargeur? Évidemment, puisque Achillemann les avait mises. Comment cela? Quand il a cambriolé mon bureau. Eh bien, simplement, il s'était tout bonnement déguisé en agent de police. Et la seconde exécution s'est passée comme la première? Exactement. C'est parce que je voulais qu'elle se déroulât ainsi que j'ai laissé exprès le complice Achillemann s'enfuir. Pourquoi, puisque vous saviez tout, vous auriez pu éviter? J'ai voulu, au contraire, mon colonel, faire ma démonstration publique. Il n'est pas bon que le peuple croie des secrets qu'on lui cache. Vous risquez de perdre Achillemann? Non. D'abord, je le faisais surveiller. Et puis, je savais bien qu'il recommencerait la même comédie pour sauver Hermann Kurt. Alors, mes hommes l'attendaient dans la caserne même, où il était mobilisé sous un faux nom, et n'ont eu qu'à le cueillir quand il est sorti de la salle des rapports. Très juste. Vous êtes un grand policier, Paul Barr, et même peut-être un grand homme. L'affaire Hermann Kurt, grâce à vous, est close. L'affaire Hermann Kurt est close. Mais dans la petite maison de Taverny, une pauvre femme demeure, enfermée dans sa chambre derrière sa fenêtre, et quand tombe la nuit, ses regards se tournent encore sur un buisson, où, toute frissonnante, elle redoute, elle espère peut-être, l'apparition lumineuse et tragique du fantôme de Taverny. C'était une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corrie.